Après avoir été longtemps jugé comme le candidat des médias, le président Macron, dans son très long entretien accordé au Point cette semaine, s'en prend à ceux qui l'ont en partie fait, c'est-à-dire à ceux-là même qu'il juge aujourd'hui sous influence de ceux qui l'ont fait. De l'art de mettre dos à dos journalistes et grands groupes industriels propriétaires de ces mêmes médias, qu'ils l'ont porté à la victoire en osant parler de l'indépendance de la presse. L'imbroglio de cette relation n'est pas pire que celui subi par les journalistes depuis que le métier existe. Parce qu'ils avaient besoin d'eux et qu'eux pensaient qu'ils allaient défendre leurs intérêts, ils se sont retrouvés pour un temps. Mais Emmanuel Macron se méfie des médias et ce mariage d'intérêts a vite été rompu. L'expérience de son prédécesseur étant encore dans les mémoires, il n'est pas question pour lui de tomber dans les mêmes pièges. Pourtant, dans notre société de communication à tout prix, nul ne peut s'offrir le luxe de s'en passer. Macron a bien essayé dans ses 100 derniers jours, mais il a échoué, preuve en est, sa spectaculaire chute dans les sondages. En cette rentrée, il était donc nécessaire de revoir sa copie. Choisir un journaliste rencontré lors de sa campagne présidentielle et le nommer porte-parole de l'Élysée n'est pas original. D'autres ont franchi le Rubicon pour d'ailleurs souvent s'en mordre les doigts rapidement, mais c'est une autre histoire. Ici, ce qui l'est un peu plus, c'est le besoin de normaliser dans les meilleurs délais les relations entre les médias et le président. Bruno Roger Petit aura, par conséquent, pour mission de relayer la parole d'Emmanuel Macron via Twitter. Ainsi, le président continuera à s'exprimer à travers les indispensables réseaux sociaux, mais ce ne sera pas lui aux commandes, préférant garder son image jupitérienne, retranchée dans son panthéon à l'abri du commun des mortels. L'éternelle collusion entre les politiciens et les journalistes est une réalité qui ne semble pas prête de disparaître, et malgré la volonté soi-disant affichée du président français, ce n'est pas lui qui mènera cette révolution-là. Si on y réfléchit bien, il leur faut d'ailleurs un certain courage à ces journalistes pour passer à l'ennemi. Traités d'opportunistes, de traîtres, etc., ils assument d'autant plus facilement d'ailleurs qu'au fond, ils doivent parmi leurs anciennes professions se trouver de nombreux jaloux. Mais là aussi, c'est un autre problème. Ce qui est surtout gênant dans ces amours nimbées de trahison, c'est l'idée que celui qui devait informer, en l'occurrence durant la campagne présidentielle, l'affaire n'étant plus que favorable au candidat Macron, en oubliant de l'afficher publiquement. Elle se situe là, la vraie trahison, avoir été invitée au dîner de la victoire à la Rotonde, d'abord, puis nommée porte-parole du président, ensuite. En juillet, la décision d'En Marche d'avoir son propre organe de communication soulevait d'autres questions reflétant les ambiguïtés de ses relations médiatico-politiques. Évidemment, Emmanuel Macron et son parti ne sont pas les premiers à fonder un organe de presse. D'autres plus célèbres que lui l'ont fait avant, et l'énergie dépensée en cris d'orfraie des confrères et consoeurs devrait plutôt alimenter le débat sur la confusion, semble-t-il, entretenue entre le métier de journaliste et celui de communicant, entre les citoyens qui se prennent pour des journalistes parce que témoins de leur époque et les journalistes dont c'est le métier, régi par une déontologie comme la majorité des professions. Entretenir ce flou sert manifestement à discréditer une corporation dont les limites sont justement dans notre société avide d'informations de plus en plus ténues. Il n'est pourtant de l'intérêt de personne de les fragiliser plus encore qu'elles ne le sont, puisque, qu'on le veuille ou non, les journalistes restent un des bastions de nos démocraties, à moins qu'il ne soit pas de l'intérêt de tous que celle-ci ne soit maintenue dans son état.